France Inter.
Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux accents et aux préjugés qui vont avec. Accent du Sud, accent du Nord, accent des Antilles, accent pointu, accent dit de banlieue. Un Français sur deux parle avec un accent et parmi eux, 27% se disent discriminés, notamment à l'embauche. D'autres disent subir des moqueries. Cette forme de discrimination par l'accent a un nom, c'est de la glottophobie. Au cœur d'une proposition de loi, c'était il y a un peu plus de 4 ans, pour sanctionner toute moquerie et promouvoir donc au contraire la France des accents. Proposition de loi restée pour l'instant dans les cartons. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Éric, bonsoir à tous.
Discrimination par l'accent, y compris en politique.
Mais qui a un accent? Et un accent par rapport à qui? Tout est relatif. Qui juge qu'Éric Delvaux a ou pas un accent ce soir? Notion qui renvoie aux dérives de la centralisation de la cour du roi à la République en guerre contre les langues régionales.
Il y a donc ceux qui affirment leur accent par fierté, d'autres qui au contraire cherchent à le cacher au risque d'assister à une uniformisation de notre langue. Voici quelques-unes des questions que je poserai à nos invités. Les accents, atouts ou handicap, on en parle jusqu'à 19h. Bienvenue dans Une semaine en France.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, celui de l'ancien député à l'origine de la loi contre la glottophobie. Bonsoir Christophe Heuzet.
Bonsoir Éric Delvaux, bonsoir à tous.
Pourquoi avez-vous ressenti le besoin, il y a un peu plus de 4 ans, de présenter une proposition de loi pour valoriser la France des accents ?
Ouais, parce que j'ai eu, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2017, une sorte de révélation. Je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait le français avec des connotations très différentes selon qu'on en venait d'un endroit ou d'un autre. Et j'ai comparé ça à l'aspect complètement monochrome, monocolore de l'expression publique, en fait, qu'on retrouve à la télé, à la radio, dans les grands médias, dans la représentation politique ou dans la grande administration. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment une forte distorsion entre cette pluralité du territoire et cette uniformité, ce monolithe au niveau central.
Et cette proposition de loi contre la glottophobie a été adoptée par les députés en novembre 2020. Mais en revanche, les sénateurs ne l'ont toujours pas votée. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Les sénateurs traînent un peu. C'est vrai que l'Assemblée nationale m'avait fait l'honneur de l'adopter dans une très large majorité. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était 98 voix pour et 3 contre. Mais le Sénat n'a jamais donné suite malgré mes multiples demandes.
Et c'est plutôt surprenant de la part des sénateurs qui se disent souvent très attachés à la diversité de leur territoire.
Bah, je vous laisse propriétaire de cette affirmation.
Avec cette loi, est-ce que les humoristes n'auraient plus le droit de faire rire en faisant une caricature des accents d'où qu'ils viennent ?
Mais c'est vrai qu'on m'a souvent opposé ça. Non, c'était pas du tout sur ce registre-là qu'on venait. Il est tout à fait normal qu'il y ait des représentations liées à des accents, qu'il y ait des clichés liés à des accents ou des préjugés liés à ces accents. C'est pas un problème. Il s'agissait en aucun cas d'empêcher les gens de faire référence à ces clichés ou de rire les uns des autres. Ça n'a rien d'anormal et ça n'a rien de choquant. Par contre, là où c'est plus embêtant, c'est quand on n'arrive plus à se défaire de ces représentations et de ces clichés, c'est-à-dire quand quelqu'un du Sud est indissociable attaché au Ricard, au pastis, à la pétanque et à la plage, et qu'il ne peut plus se défaire de cette image-là. Ça, là, c'est plus compliqué.
Mais vous mettez le doigt sur le point sensible, car en fait, comment est-ce qu'on établit une discrimination par l'accent ? La frontière ne semble pas toujours facile à établir.
Non, comme aucune des discriminations d'ailleurs. Il est très rare qu'on dise à quelqu'un qu'on le discrimine sur la base d'un critère ou d'un autre. Mais on sait que ça se produit. Et quand on a mené les travaux qui ont mené à la production de cette proposition de loi, on a fait quelque chose de très sérieux, notamment avec des sociolinguistes. Je crois que vous aurez Philippe Blanchet tout à l'heure sur votre plateau. Il fait partie des spécialistes de la question. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des discriminations très fortes, à l'embauche notamment, et à la promotion parfois par ailleurs.
Alors, cette discrimination par l'accent, la discrimination à l'embauche, qui vise-t-elle aujourd'hui ?
Il y a des hiérarchies, c'est établi, Philippe Blanchet vous le dira mieux que moi, il y a des hiérarchies d'accents, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Nous sommes classés en fonction de nos origines géographiques, et effectivement, selon les points d'embauche ou les lieux dans lesquels on embauche ou les institutions dans lesquelles on embauche, on est plus réticent à embaucher des gens qui ont l'accent du Sud, des gens qui ont l'accent de l'Est, les Iliens, comme vous le dites, ou encore plus, puisqu'il y a une hiérarchie dégressive, les personnes qui qui porte par exemple l'accent des banlieues parisiennes.
Alors on a vu dans certains curriculum vitae, certains CV écrits donc, qui ne mentionnent même plus les quartiers dits défavorisés des candidats à l'embauche. Dans le cas des accents, comment est-ce qu'on pourrait contourner cette forme de discrimination pour ceux qui cherchent un emploi ?
Bon, je crois que plutôt que de contourner, il faut sensibiliser les gens à cette spécificité-là. Évidemment qu'il y a des problèmes plus importants, vous y faisiez référence tout à l'heure dans vos actualités, dans notre pays actuellement. Et moi, je suis pas un féru défenseur des discriminations positives, mais bon, on peut quand même essayer de changer les dispositions d'esprit des gens et faire en sorte de les persuader que lorsqu'ils refusent d'embaucher quelqu'un parce qu'il a une connotation particulière sur les « on » et les « en », il fait du tort à cette personne-là et qui ce sont des carrières de vie qui sont en jeu et des gens qui sont derrière.
Et il faut bien reconnaître qu'il y a un manque d'accent également dans les médias audiovisuels notamment. Et vous, comment vous l'expliquez ?
Bah écoutez, je crois que vous le savez mieux que moi, en tant que professionnel, vous le savez, beaucoup de personnes qui arrivent dans l'audiovisuel avec un accent sont soit cantonnées à la presse écrite, soit invitées à quitter leur accent. Et le problème qui se pose, c'est qu'après, on a des phénomènes complètement déviants par rapport à tout ça, notamment des formes d'autocensure de gens qui ne s'autorisent plus à candidater dans un certain nombre de fonctions parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas dans le moule ou dans le schéma voulu. Et d'autres qui, mais Philippe Manchet, encore une fois, vous en parlera mieux que moi, décident de renoncer à leur accent et parfois le vivent très très mal parce qu'ils ont un peu l'impression de trahir leurs origines et de se déraciner.
On évoquera tout à l'heure avec Yael Gauz la glottophobie et son prisme politique, mais je voudrais vous faire réagir dès maintenant à une séquence politique qui avait fait un peu de bruit en 2018 quand Jean-Luc Mélenchon, agacé par la question d'une journaliste, s'était moqué de son accent. En allant même jusqu'à lui reprocher de ne pas parler français, comment est-ce que vous aviez vécu cette séquence à l'époque ?
Ben, elle fait partie, pour être très honnête avec vous, des origines qui ont conduit à cette proposition de loi. Parce que je me dis que c'est quand même extrêmement grave dans un pays comme le nôtre, qui se targue à de multiples égards de combattre les discriminations sur toutes leurs formes. De se moquer de quelqu'un parce qu'il a l'accent toulousain. Et je me souviens très bien de cette journaliste qui posait une question tout à fait intelligible. Ça en dit très long sur l'état d'esprit de celui qui a pu avoir des propos pareils.
Et est-ce que vous en avez parlé ensuite avec Jean-Luc Mélenchon ?
J'en ai pas parlé directement avec lui, mais je m'en suis ému à la commission des lois, puisque je siégeais à l'époque en tant que député à la commission des lois, et j'ai réussi à convaincre la présidente de la commission des lois, qui est aujourd'hui Yael Pivet-Brown, la présidente de l'Assemblée nationale, de me laisser porter une proposition de loi.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Christophe Heuzé, donc ancien député à l'origine de la loi contre la glottophobie. Et merci à Issy Roussillon qui a permis d'établir cette liaison. Les accents, il y a donc ceux qui les cachent et ceux qui en sont toujours fiers. Il y en a même qui le chantent, par exemple à Marseille, avec ce méridional. Il s'appelle Jo Corbeau, chanteur de reggae sur la Canebière et parmi le peuple de Marseille. Reportage de Guy Vanctil.
Watch it, Joe Corbeau. Si on arrive au moins vers la tour, on sait que c'est plus calme.
Nous voilà sur le vieux port.
Ah là, carrément, on est...
Dans la carte postale marseillaise, là.
Ben, c'est le Lacidon, hein, c'est le nom original de la calanque, parce que c'était une vraie calanque marseillaise. Enfin, à l'époque, c'était pas Marseille, on disait Massalia, c'est-à-dire la maison des Saliens, peuple celto-ligure, donc qui vivait... Yeba Ayoli.
C'est des fans de l'OM qui vous reconnaissent,
ben
Jo Corbeau.
Ouais. Le peuple de Marseille qui adore le soleil, qui se met sur les terrasses et qui devrait remercier Dieu d'habiter dans cette belle ville.
Jo Corbeau s'y sent bien. Lui chante sa ville sur un air de reggae, bien qu'il soit arménien, tendance bagnole.
Oui, c'est vrai, j'étais un des premiers même à faire du reggae ici. Fin des années 70, début 80, je crée mon premier sound system, le Djibril sound system. Et ça n'a pas arrêté depuis, c'est un mouvement perpétuel, on va dire.
Mais après, est-ce que j'ai le droit de dire votre âge ? Est-ce qu'on a le droit
oui,
ça se dit,
bien
ça
sûr, j'ai 78 ans maintenant. Mais toujours musicien, toujours auteur, toujours écrivant des chansons. Parce que si tu veux, on m'appelle le griot arménien de Marseille. Dans le monde entier, il y a des confréries, il y a des gens qui racontent les choses, qui se rappellent de la mémoire de leur peuple et qui le racontent d'une manière poétique. Donc le griot arménien de Marseille.
Ouais, parce qu'on dit Jo Corbeau, mais votre vrai nom, c'est Georges...
Georges Ohanessian. Et encore, Georges, c'est la traduction en français de mon vrai prénom en arménien, c'est Kevork. Alors ça, c'est mon vrai nom. Moi, je suis un enfant, en fait, je suis un fils de réfugié arménien. Hein.
Et d'ailleurs, avec quel accent il vous parlait, votre père ?
Ah, ben, il avait un accent incroyable. Georges, qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi partir ce matin ? Parlez-vous, ben...
Et gamin, et quand on est minot, on veut pas avoir le même accent que ses parents, quoi. On veut avoir celui de l'école. Quoi.
Ah oui, on veut avoir le vrai accent marseillais de tous les copains. Hein. Finalement, cet accent marseillais, mais que ton père il venait d'Arménie, ou qu'il venait d'Italie, d'Espagne, du Maghreb, tu prends ton accent du quartier, des collègues. Mais il y a tellement d'accents différents, il y a même dans les quartiers, certains quartiers, tu as un accent différent qui est mélangé maintenant avec l'accent un peu du rap. Les bourgeois ont un accent, on l'appelle le jambon, ils parlent un peu. Mais oui, tu comprends, parce qu'ils ne veulent pas perdre complètement l'identité marseillaise, mais ils ne peuvent pas parler complètement avec l'accent populaire non plus. Mais tous ceux qui viennent de partout, et surtout maintenant, c'est la grande mode, parce que dans la ville, il y a beaucoup qui viennent de Lyon, de Paris, de toute la France. Par exemple, les gens, ils sont là, ils viennent des fois, ils disent « Ah, mais c'est pas comme dans le film Rému, machin. » J'ai dit « Mais madame, vous me parlez d'un film qui a été tourné en 1930. Et le Paris de 1930 et celui aujourd'hui de 2025, c'est le même. »
On parle pas comme Arletty.
Avec, voilà, Arletty et tous ces merveilleux.
C'est vrai que c'est un français qu'on parle plus aujourd'hui.
Mais oui, mais personne parle comme ça. Et nous, c'est pareil. J'ai retrouvé quand même, quand j'ai habité à Eour. Eour, c'est un petit village. Et là-bas, c'est là-bas où a été tourné le Spoons. De Pagnol avec Fernandel, bien sûr, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. J'ai même écrit une chanson, Spoons Power. Et là-bas, j'ai retrouvé avec les personnes un peu plus anciennes l'accent vraiment très très proche de ce Marseillais de l'époque.
C'est comme un éclat de rire salvateur. J'pousse, power, j'pousse.
Ces histoires d'accent, c'est tout sauf pittoresque, c'est tout sauf secondaire.
Vibration, l'accent, c'est une vibration, mais c'est pas secondaire. Un accent, c'est quelque chose qui reflète l'âme.
C'est pour ça, moi, quand on m'a dit, oui, on va travailler sur la glottophobie.
Ah, alors là, c'est la glottophobie, oui, le fait de ne pas parler.
Le fait de discriminer sur
l'accent. C'est terrible. Mais c'est horrible. Comment on peut faire ça? Ils ne savent plus quoi discriminer maintenant. Avant, il y avait la couleur, après, c'était la taille, après, c'était s'il est gros, après, s'il est trop maigre. Et maintenant, c'est l'accent. C'est-à-dire que, franchement, ils ne savent plus quoi faire. Au lieu de se mettre là, simplement sur un banc, au soleil, tu vois, la mer est bleue, la barque est jaune.
Une barque jaune avec un papy qui est dessus.
C'est un haïku, tu vois. Une barque jaune. Ouais. Traverse le Lacidon sous le beau soleil. Voilà.
Vous avez compté les pieds.
Voilà,
ça
les
fait
pieds.
Un haïku japonais.
7, 5, voilà. C'est donc un haïku japonais en pleine Méditerranée. Et ça, c'est une bénédiction que j'envoie à tous les auditeurs.
Merci à vous.
Yeba Ayole sur Everybody.
Voilà donc pour ce reportage à Marseille, reportage signé Guy Vanctil, la France des accents donc. On en parle jusqu'à 19h dans une semaine en France et j'accueille Philippe Blanchet, bonsoir. Philippe Blanchet, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Philippe Blanchet.
Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez aussi?
Très bien, très bien. Vous êtes linguiste, professeur à l'université Rennes 2, et vous êtes l'inventeur de ce terme glottophobie. Alors, vous avez peut-être entendu dans ce reportage, hein, ce Marseillais fier de son accent. Qu'est-ce qu'on revendique, en fait, quand on est fier de son accent?
le droit d'exister comme on est, sans avoir à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, tout simplement, puisque la façon dont on parle, ça fait partie de qui on est, de notre façon d'être au monde, de la façon dont on est reconnu.
On revendique une identité régionale ?
Pas forcément régionale, parce qu'on peut avoir une prononciation réputée être un accent, qui est social, qui vient d'un autre pays du monde francophone. Et aussi une identité individuelle, puisqu'il n'y a pas deux personnes qui parlent exactement, qui prononcent exactement de la même façon.
Mais y aurait-il des accents plus faciles à valoriser que d'autres ?
Alors, il faut d'abord se dire que ce qu'on appelle un accent, c'est une prononciation qu'on juge différente par rapport à un point de référence. Donc, comme en France, on considère que la référence est forcément la bourgeoisie parisienne, ceux qui parlent, qui prononcent le français autrement sont censés avoir un accent, mais on peut évidemment parfaitement renverser le point de vue, et d'ailleurs, mon collègue Jo Corbeau, puisqu'il est marseillais comme moi, vous direz que c'est les Parisiens qui ont un accent et que les Marseillais prononcent tout à fait banalement
accent pointu, disent les gens du Sud.
L'accent pointu, oui, c'est ça. Ça veut dire l'accent snob à l'origine, puisque c'est l'accent des classes dominantes de la capitale. Donc, voilà, la question, finalement, c'est juste qu'une langue est forcément diversifiée. C'est pas possible que tout le monde la parle et la prononce de la même façon. Ça n'existe pas. Comme plus la plupart des gens qui parlent le français, comme les Provençaux dont je suis, mais partout ailleurs aussi, ont eu avant une autre langue que le français et ont parfois encore à côté une autre langue que le français, et que ça colore leur façon de parler le français.
Le mépris pour les accents, hein, cette glottophobie, est-ce récent au regard de l'histoire ou au contraire, est-ce que c'est ancré dans la rivalité que se sont livrés, vous le disiez, Paris et les régions françaises ?
La glottophobie, qui d'ailleurs ne désigne pas que les discriminations ou les stigmatisations à cause de l'accent, mais toute forme de discrimination à base linguistique, c'est un phénomène qui est très ancré dans la société française, puisque la France a été construite dans l'idée d'imposer une unité nationale autour du partage imposé d'une seule et même langue, le français, qui à l'origine est la langue de Paris et de sa région. Et donc il y a eu une forme de mépris, on trouve ça, si vous regardez la définition de langue, dialecte et patois dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est fin 18e, vous voyez clairement qu'il y a déjà un sentiment une arrogance et un sentiment de supériorité des Parisiens sur les vagues provinces réputées plus ou moins sauvages et les non-langues qu'on y parle.
Et donc,
dans un premier temps, on a imposé le français, et une fois que les gens ont appris le français, est apparue la glottophobie contre les accents, puisque les gens ont appris le français, mais l'ont prononcé à leur façon, et donc on leur a dit « Ah, mais ça suffit pas d'avoir appris la langue de Paris, maintenant il faudrait parler aussi avec la prononciation de Paris. »
Et ça, c'est arrivé quand la langue française est devenue l'un des socles de la nation, c'est-à-dire la Révolution française, la dictature de la terreur ?
Alors, ça a mis beaucoup de temps à s'appliquer, c'est-à-dire qu'en fait, la totalité ou la quasi-totalité de la population française parle français depuis quelque part au milieu du XXe siècle, et c'est à partir de ce moment-là, à partir des années 60, à peu près 70, qu'on voit commencer à pointer le mépris des différentes façons de prononcer le français. Si vous écoutez les personnalités politiques enregistrées jusque dans les années 50, elles ont souvent un accent régional ou social, et à l'époque, ça ne les empêchait pas d'occuper les positions qu'elles occupaient. À partir des années 60-70, c'est plus possible, ça disparaît, parce que si vous avez un accent, peu importe qu'il soit ch'ti, méridional, antillais ou basque, on fait un barrage, et c'est ça qui est une discrimination. On vous empêche d'accéder à des positions, par exemple à des positions de prestige, comme celle d'être un responsable politique de niveau national.
Et Jean Castex a prouvé le contraire récemment. L'accent, c'est finalement tout ce qui reste d'une langue régionale disparue, mais qui est transmise encore par les grands-parents ?
Alors, les langues régionales ne sont pas disparues pour la plupart d'entre elles, loin de là, contrairement à ce qu'on dit souvent. Mais effectivement, les accents régionaux sont les marques de la langue d'origine sur la langue française, telle qu'elle a été apprise il y a 3 ou 4 générations et telle qu'elle a été transmise à l'intérieur des familles.
On a évoqué la révolution deux siècles et demi auparavant, en 1539, ça s'appelait l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Elle a généralisé le français au détriment des langues locales. Il faudra peut-être rappeler cette séquence.
Eh bien non, justement, ça c'est une erreur qui circule beaucoup, pardon de vous corriger. Mais
c'est pour ça que je vous invite.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts ne portait que sur les actes de justice qui devaient être rédigés dans une langue que les gens comprennent. Ce qui veut dire qu'il ne s'agissait pas de les écrire en français, mais qu'il s'agissait de les écrire dans la langue des sujets du roi de France. Et elle a été ensuite interprétée à tort comme signifiant, d'une part, qu'on imposait le français, ce qui est faux d'ailleurs. Les textes de l'époque montrent que ça n'a pas du tout été compris comme ça, et on a même fait croire que ça a imposé le français dans toute l'administration, voire dans tout le royaume, ce qui est encore plus faux. C'est beaucoup plus récent, ça date de la Révolution en fin de compte.
Il y a aujourd'hui un accent dit de la banlieue, comment le définir ?
Alors, vous savez, les différences de prononciation ne sont pas uniquement géographiques, elles sont aussi sociales, et souvent elles sont à la fois sociales et géographiques. Et donc, les ouvriers ou les paysans ont toujours eu une façon de parler différente des classes moyennes ou de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. La façon de prononcer la langue, c'est aussi un marqueur d'appartenance à un groupe social. Et donc, ça s'est perpétué. Et comme souvent dans les villes, on a renvoyé les populations défavorisées dans les banlieues, c'est là qu'on y a concentré les prononciations populaires. Alors plus récemment, ce qui a transformé les accents dits de banlieue, c'est le fait qu'on y a aussi concentré des populations originaires d'autres pays, mais francophones ou devenues francophones, parce qu'on les a laissées dans la pauvreté pour la plupart d'entre elles. Et du coup, les prononciations dites de banlieue ont aussi reçu l'influence d'autres langues que les langues locales. Par exemple, on trouve, comme vous le savez, un certain nombre de prononciations et de mots qui ont été empruntés à l'arabe maghrébin, puisqu'on a pendant longtemps fait venir des travailleurs de ces pays-là pour reconstruire la France.
Et la France qui reste le français qui reste une langue vivante, donc. Philippe Blanchet, vous restez avec nous, vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris-Rennes. La France des accents, on va continuer d'en parler, ce sera après Hervé sur Inter.
Le ventilo tourne en rond pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? J'commence à croire que j'ai peur. J'commence à croire que j'espère. Parfois y'a comme des échos, des destins paratonnerres, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots? Si les sirènes chantent l'histoire, à chercher qui abonde? Si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
Sous son emprise, moi je coupe le courant. À
Moins une, c'est le titre de cette chanson d'Hervé sur France Inter et merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Vous écoutez Une semaine en France, à la technique ce soir, Ludovic Asselot, Arnaud Caillé et Enzo D'Hospital.
France Inter, le 18-20.
La France des accents, ce soir jusqu'à 19h, on en parle avec Philippe Blanchet, linguiste, professeur à l'université Rennes 2. Je rappelle que c'est vous qui avez inventé le terme de glottophobie, là. Une forme de discrimination par l'accent, même si la glottophobie va bien plus loin que la discrimination, que la seule discrimination. Philippe Blanchet, quel rôle ont joué l'école, puis les médias, dans la disparition des accents, ou au contraire, dans leur affirmation ?
Alors, jusqu'à présent en tout cas, mais il y a un petit changement en cours, y compris grâce aux prises de conscience autour du projet de loi de M. Heuzé, mais jusqu'à présent, alors l'école a d'abord joué le rôle principal de diffusion de la langue française, qui était une langue à peu près inconnue dans une grande partie de la France encore jusque, on va dire, au milieu ou à la fin du 19e siècle. Évidemment, le français qu'on y enseignait était le français que pouvaient parler les instituteurs, qui étaient souvent des gens recrutés localement. Donc probablement, mais on n'a pas d'enregistrement, hein, probablement avec une prononciation locale. Et les médias, eux, qui se sont développés plus tard, la radio commence à se répandre dans les années 30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Quant à la télévision, c'est encore plus récent. Eux sont arrivés au moment où ils ont plutôt joué le rôle de modèle de conformation d'un français dit standard, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le modèle de la prononciation de la bourgeoisie parisienne, avec, comme ça a été signalé précédemment, le fait qu'il a été, et il reste encore, même si ça change, très difficile d'accéder à un emploi, par exemple dans l'audiovisuel, si on a une prononciation non standard du français. Et ça, c'est typiquement, par exemple, un exemple de discrimination à l'embauche.
Oui. Et à l'école, l'ascenseur social qui était promis à l'époque, il passait par la disparition de la langue régionale ?
Ben oui, d'une certaine façon, puisqu'on a posé comme condition, et du coup ça aussi c'est une forme de tri qui s'apparente à de la discrimination, on a posé comme condition d'accès à l'éducation d'abord, à la réussite scolaire et donc en partie à la réussite sociale, de ne le faire qu'en passant par une seule langue qui est le français. Alors vous imaginez l'écart de traitement, les inégalités que ça a pu créer entre les enfants qui venaient de régions où on parlait déjà français ou de familles où on parlait déjà français et puis ceux qui, tout à fait légitimement, parlaient la langue historique de leur famille qui pouvait être une autre langue, quelle qu'elle soit. Et du coup, même chose avec les accents qu'ils ont pu avoir en parlant français.
Et Philippe Blanchet, vous restez avec nous encore un peu. Je me tourne vers Yaël Gauz pour parler de la politique avec vous, Yaël. La discrimination par l'accent dans la sphère politique aussi. Des exemples récents, pas plus tard que mardi dernier.
Oui, si vous avez bien prêté l'oreille mardi au discours de politique générale de François Bayrou, le sujet est bien abordé dans la liste des assignations à résidence contre lesquelles la République doit lutter.
Combattre l'assignation de la naissance, du quartier, de la religion, de la consonance du nom, de l'accent, offrir à tout cela de nouvelles chances.
De l'accent donc aussi, être discriminé en fonction de ça. 16% des Français disent avoir déjà été victimes de glottophobie, ça c'est une enquête IFOP de 2020.
Et malgré les tentatives, toujours pas de loi contre la glottophobie, ce qui n'a d'ailleurs pas empêché quelques avancées.
Hein. Ben oui, vous le disiez, une loi qui est toujours bloquée au Sénat, qui n'est pas prise par les sénateurs alors que c'est la Chambre des territoires. Une loi qui prévoyait des peines de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, mais jamais le Sénat a repris la balle au bon, parcours inachevé. Donc avant cela, automne 2018, un incident relance le sujet. Jean-Luc Mélenchon, questionné sur les perquisitions à son domicile et au siège de la France Insoumise, répond énervé avec l'accent toulousain de la journaliste qui l'interroge, salle des quatre colonnes, c'est un tollé. Et le marcheur Bruno Studer, député du Bas-Rhin, revendique alors son accent lors des questions au gouvernement le 23 octobre 2018.
Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien, que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours.
Folklore politique ? Non, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à l'époque, y voit une discrimination comme les autres.
Ça n'est sans doute pas une révolution, mais sur le terrain du principe, Il me semble important que personne ne soit discriminé à raison de son accent.
Et fort heureusement, les temps changent, Eric. Ce qui aurait pu faire rire 10 ans ou 15 ans en arrière génère a posteriori un gros malaise. Comme lors de la présidentielle de 2012, quand Jean-Marie Le Pen se met à imiter la candidate écologiste Eva Joly.
Au niveau d'Europe Écologie, Eva Joly semble bien placée. Est-ce que ça vous surprend ?
Ça m'a surpris un peu quand même. Parce que Mme Joly est une franco-norvégienne qui d'ailleurs, quand elle parle de son pays, dit « chez nous, on fait comme ça, c'est pas bon ».
Voilà, le mépris, selon Jean-Marie Le Pen, très content de lui à l'époque sur son blog vidéo. Parler l'accent de son adversaire pour mieux le discréditer, c'est aussi ce que fait la socialiste Martine Aubry le 26 novembre 2009, interrogée par Arlette Chabot sur France 2.
Monsieur Pasqua, qui nous dit il y a quelques jours, je vais faire une conférence de presse et vous allez voir, je vais tout leur dire.
Plus récemment, et ça avait fait beaucoup réagir à l'époque, Emmanuel Macron est en pleine présentation de son plan Marseille en grand en septembre 2021 et il se met à faire référence, et sans raison, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Se moquer des accents, Yael, ça n'existe pas qu'en France.
Mais non, non, au Royaume-Uni, il y a la RP, la Received Pronunciation, l'anglais considéré, je ne sais pas si j'ai un accent là, comme standard et acceptable, mais qui n'est parlé que par moins de 10% de la population. Au Québec, à l'Université Concordia, l'équipe du professeur Antoine Bilodeau travaille sur ce fait de société, les minorités audibles, comme il y a des minorités visibles. En Belgique, au-delà des discriminations linguistiques entre Flandre et Wallonie, des testings ont montré que des candidats avec CV et expérience identiques n'étaient pas traités de la même manière selon qu'ils avaient l'accent liégeois ou l'accent bruxellois. Mais rien qu'en disant ça, Eric, je dis une énormité. Qu'est-ce que veut dire parler un accent bruxellois comme s'il y avait l'illusion d'un groupe homogène ?
Et à Marseille, à l'époque, il y en a un qui avait tout compris.
On en revient toujours à Marseille. Un certain Marcel Pagnol, incollable sur l'accent marseillais. Un seul ? Non, vous voulez dire les multiples ? 5, 10, 15, 20 accents marseillais.
Il y a l'accent du Vieux-Port, c'est celui-là que j'ai employé pour écrire Marie-Louise ou Fanny. Maintenant, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, puis il y a l'accent de la plaine. Oh oui, ça varie un peu avec les quartiers. Il faut dire aussi que ça varie avec les classes sociales.
Marcel Pagnol, en 1962, interrogé par l'ORTF. Autant d'accents qu'il y a de rues, une langue dans la langue, disait Michel Serres.
Philippe Blanchet, linguiste, je rappelle que vous avez inventé le terme glottophobie. On parlait de Pagnol, Rému, Fernandel. Ils ne cachaient pas leur accent, ça ne les a pas empêchés à l'époque d'avoir une carrière nationale.
Et non, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça se passait à l'époque où l'objectif majeur de la politique linguistique en France, c'était de conduire les gens à parler français. Tous ces acteurs-là avaient comme langue première le provençal, pas le français. Ils ont même, pour certains, commencé leur carrière en provençal à Marseille avant que le français l'emporte. Par contre, s'ils voulaient le faire aujourd'hui, eh bien, c'est Patrick Bosseau qui disait ça. Lui, il l'a fait, hein. Simplement, quand on lui envoie un scénario, ben, comme il dit, à la première scène, on lui demande de jouer à la pétanque, à la deuxième de boire un pastis, à la troisième de faire la sieste. Et donc, on ne pourrait plus jouer les beaux rôles humains, profondément humains, que Pagnol faisait jouer à ses acteurs à cette époque-là.
Eh bien, merci beaucoup de cet éclairage que vous nous avez apporté ce soir sur cette France des accents. Merci beaucoup, Philippe Blanchet, linguiste donc et professeur à l'Université Rennes 2. Et je renvoie à votre livre « Discrimination, combattre la glottophobie » paru en 2016. Aux éditions Lambert Lucas. Dans un instant, ce sera le multiplex des régions avec les réseaux ici.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those with definition.
definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not his muscles, but percussion he provides. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on.
En 2001, Gorillaz chantait Clint Eastwood. Vous écoutez Une semaine en France. Maria Pasquet à la réalisation, Frédéric Barrère, rédacteur en chef. Un grand merci à Capucine Aubert et Julie Delteil qui m'ont aidé à préparer cette émission. À suivre sur France Inter, l'actualité d'ici et d'ailleurs.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
Dans une semaine en France, l'actualité des régions, le multiplex des radios, ici, ex-France Bleu, nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Bourgogne, ici Pays d'Auvergne et ici Pays Basque. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Avec une question pour commencer à Biarritz, Odile Faure, faut-il débaptiser le quartier de la Négresse au nom de l'antiracisme ?
Alors la Négresse est un quartier de Biarritz situé non loin de la gare. Il porte ce nom depuis des lustres parce qu'une serveuse d'un bar du quartier est de couleur noire. En 2015, trois ans après sa création et son désir de revisiter le passé esclavagiste de certaines villes de France, l'association Mémoires et Partages milite pour que ce nom disparaisse de Biarritz, un terme insultant et dégradant selon son président Carfa Diallo. Après des contacts vains avec la cité basque, l'association porte un recours au tribunal administratif. Mais sa demande est rejetée. L'association fait appel et là, surprise, c'était hier, le rapporteur public, sorte de procureur de la justice administrative, va dans le sens de l'association et demande à la Cour d'abroger deux délibérations municipales qui autorisent son nom, ce nom, et d'annuler le jugement de première instance. La décision finale sera rendue le 6 février, mais l'espoir est permis pour l'association Mémoires et Partages.
Et les gens de ce quartier de Biarritz, qu'en pensent-ils ?
Alors le terme est encore employé localement pour nommer un viaduc, le quartier ou encore le fameux bar qui est toujours existant, mais il n'est plus inscrit nulle part sauf sur un panneau de péage autoroutier. Les réponses recueillies cette semaine par le reporter de Ici Pays Basque sont variables. Les plus anciens ne voient pas où est le mal et ne changeront pas leur vocabulaire. Les plus jeunes comprennent davantage que ce terme de la négresse n'a plus lieu d'être et qu'il est dégradant. Un autre nom est proposé pour remplacer celui de Araosta, qui signifie poussière en basque.
De Biarritz, nous partons à Dijon. Anne Auger-Cagnier, je parle d'un train saisonnier baptisé la Gentiane Bleue. C'était un train saisonnier, j'en parle au passé, car ce train d'hiver disparaît peu à peu.
Oui, la Gentiane Bleue, c'était ce train qui, les week-ends, en hiver, emmenait les Dijonnais skier à Métabier, une petite station dans le massif du Jura. Elle partait de Dijon tôt le matin, elle vous déposait quasiment au pied des pistes et puis elle vous ramenait le soir ou le lendemain, 1h30 de trajet et des souvenirs pour beaucoup de gens. Elle a circulé pendant 35 ans. Mais ce TER, financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, ne reviendra plus probablement, victime à la fois du changement climatique, du Covid et des tensions sur les budgets des collectivités, en tout cas cette année. Pas de Gentiane Bleue.
Et la première raison, Anne, c'est qu'il n'y a pas toujours de neige à Matabier.
Et oui, à Métabier, c'est ça. Alors, si vous regardez en ce moment les webcams de la station de Métabier, les caméras à distance, vous verrez de la neige, mais c'est loin d'être toujours le cas. Et le vice-président socialiste de la région, en charge des transports, explique qu'on ne peut pas toujours faire circuler un train de temps en temps. Il faut que ce soit régulier et rentable. En 2023, l'agence Yann Bleu a roulé deux fois pour 158 voyageurs. Alors les défenseurs de ce train disent qu'on pourrait imaginer d'autres activités que le ski, mais là on touche à une autre raison, le financement. À l'heure où la région a engagé un bras de fer avec l'État pour financer des travaux urgents sur d'autres petites lignes, dans le Morvan, en Saône-et-Loire, il y a d'autres combats à mener.
Et on ira chercher la neige à Métabier. Merci beaucoup. À Clermont-Ferrand, Anaïs Martin-Covy. En Coupe de France, eh bien voilà un club de football amateur, le FC Espaly, qui n'est pas passé loin de l'exploit.
Eh oui, l'aventure du FC Espaly est historique. C'est la première fois que ce club de National 3 arrivait en 16e de finale. Ce mercredi, le petit poussé a réellement fait trembler le Paris Saint-Germain. Et contrairement à ce qu'a pu dire Luis Enrique après le match, ce n'est pas la faute de la pelouse du stade Marcel Michelin. Oui, le Michelin est un stade de rugby, mais si les Parisiens ont tremblé, c'est surtout qu'ils ont fait face à une équipe d'amateurs surmotivés. Espaly s'est finalement incliné 4-2, mais des exploits, il y en a eu mercredi. Déjà, celui d'avoir marqué deux buts face au leader de la Ligue 1. Ensuite, celui d'avoir ouvert le score après seulement 3 minutes de jeu. Et puis, il y a aussi l'exploit de ne pas avoir été déstabilisé par les 13 000 supporters dans ce stade en fusion. Parce que 13 000 personnes, c'est énorme, surtout quand on sait que la commune compte 3 500 habitants.
Et c'est exactement pour ça qu'on aime la Coupe de France.
Vous prenez d'un côté le meilleur club de Ligue 1 avec des millions d'euros de budget, des professionnels du foot, et vous mettez en face un club 5 divisions en dessous et dont les joueurs ont pris des RTT ou des congés pour jouer le match de leur vie. Lionel Vaillant, par exemple, le coach d'Espaly, il est professeur des collèges et le lendemain, il avait cours de PS. Ce que l'on aime dans cette Coupe de France, c'est que ça crée des moments de vie magiques. Le FC Espaly n'a peut-être pas gagné ce match, mais c'est tout comme.
Eh bien, merci à tous les trois à l'actualité en région avec les stations d'ici. Dans un instant, le journal de 19h.